La fille.
Vous écoutez RFI, 19h30 à Paris et Kinshasa, 18h30 en temps universel.
Afrique Soir sur RFI.
Et c'est l'heure de retrouver la première édition d'Afrique Soir de ce mardi. Elle vous est présentée par Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de cette édition, la République démocratique du Congo et la progression du M23 et des éléments de l'armée rwandaise au sud Kivu, au centre d'un entretien aujourd'hui du président Tshisekedi avec le président angolais à Luanda. Cette rencontre intervient 3 jours après la chute de Bukavu. Au Mali, 7 rebelles et une 30aine de civils tués dans la région de Kidal lors d'une opération conjointe des forces maliennes et de Wagner. Dans l'actualité également, le Sénégal, avec le début d'un mouvement de grève de 48 heures dans les hôpitaux, les médecins protestent contre leurs conditions de travail. Le 60e anniversaire de l'indépendance de la Gambie, nous reviendrons sur le bilan de l'action du président Adama Barrow, qui a mis fin au règne du dictateur Yahya Jammeh en 2016. Et puis la sélection musicale, toujours très attendue, d'Hervé Mandina, alias DJ Facemaker, avec la parité qui est au programme. La République démocratique du Congo et le président Félix Tshisekedi qui s'est rendu ce matin à Luanda pour s'entretenir avec son homologue angolais João Lourenço qui est désormais président en exercice de l'Union africaine. La rencontre, je vous le disais, intervient 3 jours après la chute de Bukavu, actuellement sous le contrôle du M23 soutenu par le Rwanda. Et selon la présidence angolaise, c'est la détérioration rapide de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC qui a motivé cette diligence diplomatique, alors que les efforts régionaux pour une désescalade peinent à aboutir. Patient Legodi.
Les discussions ont porté sur la progression de la FCM-23, en particulier au sud Kivu. Sur le plan diplomatique, aucune avancée notable n'a été enregistrée. Les deux chefs d'État ont abordé les mesures à prendre, tant au niveau bilatéral que régional. Ils ont également échangé sur les conclusions de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, tenue vendredi dernier à Addis Abeba. Cette instance n'avait ni cité ni condamné le Rwanda, insistant sur l'absence de solution militaire au conflit et appelant à privilégier la diplomatie et le dialogue. Le Conseil avait surtout exhorté à la reprise immédiate des négociations avec toutes les parties prenantes, y compris le M23, dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Selon plusieurs sources, l'Angola soutient cette approche de dialogue. Félix Tshisekedi, en revanche, refuse tout échange direct avec le M23 et insiste sur la relance du processus de Luanda qui implique directement Kigali. À ce stade, aucun détail n'a filtré sur les conclusions de leurs échanges. De son côté, la communauté internationale mise sur la proximité entre João Lourenço et Félix Tshisekedi pour favoriser une désescalade.
Et sur le terrain, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda poursuivent leur offensive dans l'est du pays. Après avoir pris la ville de Bukavu dans le sud Kivu le week-end dernier, les rebelles sont arrivés dans la localité de Kamanyola à 60aine de kilomètres au sud de Bukavu. Des affrontements ont eu lieu aujourd'hui en fin d'après-midi entre rebelles et forces burundaises alliées à l'armée congolaise qui se trouvait à Kamanyola. Selon une source locale jointe par RFI, 80% de la population de cette localité avait déjà fui depuis samedi et la situation est calme ce soir. Kamanyola est une localité stratégique car c'est là que les militaires burundais et congolais s'étaient installés pour faire barrage au M23 qui poursuit donc leur avancée vers le sud de la province. À Bukavu hier, c'était un calme relatif qui régnait dans la capitale du sud Kivu occupée par le M23 appuyée par l'armée rwandaise. Sur place, l'ONU parle d'une situation toujours très préoccupante. Ce matin, à Genève, lors d'un point presse, le porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme a accusé le M23 d'avoir exécuté des enfants à Bukavu. Il demande aussi au groupe armé et au Rwanda de respecter le droit international. À Genève, Jérémy Lanche.
Difficile depuis Genève d'y voir clair dans les informations qui parviennent du nord et du sud Kivu. La porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Ravina Hachemdansani, ne donne aucun chiffre sur le nombre total d'exécutions sommaires, tant la situation est volatile. Mais elle confirme un incident survenu dimanche dernier à Bukavu.
Le 16 février, dans le quartier latin, 3 enfants ont été tués dans une altercation avec le groupe M23. D'après nos sources, les 3 enfants portaient des armes qu'ils ont trouvées dans une caserne abandonnée par les forces armées. armée. Le M23 les a interceptés. Ils ont refusé d'abandonner leurs armes. S'en est suivi un échange de tirs, à la suite de quoi les trois enfants ont été tués. Nous essayons de confirmer les infos que nous recevons du terrain, mais ça nous paraît suffisamment grave pour qu'on rende cet incident public.
Le recrutement d'enfants soldats inquiète aussi le Haut-Commissariat, même si là encore, on n'en connaît pas l'ampleur. Tout juste sait-on que des mineurs aussi jeunes que 12 ans ont été enrôlés de force. Les enfants paient en tout cas un lourd tribut depuis le début de l'offensive des rebelles du M23 et des forces rwandaises. Entre les écoles fermées, endommagées, détruites ou transformées en abris, 795 000 enfants sont désormais privés d'éducation dans l'Est, prévient l'UNICEF. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
Et du côté de l'AFC, M23 en rejette ces accusations. On accuse les milices Wazalendo et les forces armées congolaises d'être à l'origine des désordres qui ont précédé leur entrée à Bukavu, dont les exécutions et les pillages. La guerre au Soudan, des attaques menées par les FSR, les paramilitaires, ces trois derniers jours ont fait plus de 200 morts, selon un collectif d'avocats soudanais. Exécutions sommaires, enlèvements, pillages, deux villages de l'État du Nil Blanc ont été ciblés, selon cette même source. Au Mali, l'armée et ses partenaires du groupe Wagner ont mené une série d'opérations dimanche et lundi dans la vallée de Tilemsi. Sept rebelles indépendantistes du FLA, considérés comme terroristes par les autorités maliennes de transition, ont été tués. Une trentaine de civils ont également péri au cours de ces différentes opérations. David Baché.
Dimanche, en fin d'après-midi, une patrouille armée malienne Wagner croise une escouade du FLA près d'Anéfis, entre Gao et Kidal. L'armée revendique sept terroristes neutralisés. Les rebelles confirment avoir perdu sept hommes et assurent avoir eux-mêmes tué six ennemis. Dimanche toujours, l'armée et Wagner ont également mené une opération au puits d'Aslar. Aucune précision du côté de l'armée, mais selon les très nombreuses sources locales jointes par RFI, au moins quatre civils ont été tués, des cadavres piégés, de nombreuses têtes de bétail ont également été massacrés. Hier, lundi, quatre véhicules ont été ciblés par l'armée et Wagner aux environs de Timtachen, près de Tessalit. Sollicité sur cette opération, l'armée n'a pas donné suite. Mais de nombreuses sources locales expliquent unanimement qu'il s'agissait de véhicules civils qui avaient quitté Gao en direction de la frontière algérienne. Selon ces sources, 24 passagers ont été exécutés. Sur les images transmises à RFI, on distingue des femmes et des enfants parmi les victimes, enchevêtrées devant une voiture calcinée. Un deuxième véhicule a pu prendre la fuite sous les tirs des soldats maliens et de leurs supplétifs de Wagner. Quatre autres passagers tués. Les deux derniers véhicules ont été emportés par les soldats maliens et leurs partenaires russes.
En bref, Alger proteste contre la visite lundi de Rachida Dati au Sahara occidental. Dans un communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères affirme que cette visite de la ministre française de la Culture est, je cite, « malvenue et condamnable à plus d'un titre ». Elle traduit un mépris de la légalité internationale de la part d'un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Fin de citation. Et de son côté, Rachida Dati a qualifié d'historique cette visite, estimant qu'elle démontrait que le présent et l'avenir de cette région s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine.
RFI à Dakar, 92 FM.
Au Sénégal, les médecins dénoncent leurs conditions de travail depuis plusieurs mois. Ils appellent les autorités à recruter des médecins pour les hôpitaux publics et améliorer les conditions de travail, salaire et retraite dans le secteur public. Mais sans succès, ils ont donc décrété une grève de 48 heures pour se faire entendre. Écoutez le secrétaire général du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens du Sénégal, Mamadou Demba Dour. Il est au micro de Léa Lisa Westerhoff.
Depuis 4 ans, voire 5 ans, l'État du Sénégal n'a plus recruté de médecins dans la fonction publique, encore moins de pharmaciens et de chirurgiens-dentistes. Mais il y a un manque de médecins criard au niveau des structures de santé. Allez dans n'importe quelle structure de santé au Sénégal, vous vous rendrez compte vous-même que les délais d'attente dans les files d'une consultation réglée. Parce que les consultations, on est obligé de les surcharger pour pouvoir absorber la demande. Là où on doit avoir 4 ou 5 médecins, c'est 1 ou 2 qui sont là-bas. Des fois, les spécialistes même manquent dans toute une région. Ce qui fait que la charge de travail est incommensurable. Et ça, ce qui est incompréhensible, c'est qu'au même moment, ces mêmes spécialistes voient les jeunes collègues qui doivent venir les appuyer dans les postes de travail, laissés en rade, ils sont au chômage, l'État ne les recrute pas. Et nous avons retenu encore la nécessité de construire des hôpitaux dans les divers départements du pays. Parce qu'au Sénégal, on se retrouve avec des départements entiers sans hôpital. Ce qui fait que les populations peinent à trouver une structure de santé capable à même de prendre en charge leurs préoccupations en termes de santé.
Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 18h40 en temps universel. À Banjul, le président Damabaro met en garde la jeunesse gambienne contre la tentation d'émigrer vers l'Europe. Ne croyez pas les histoires que vous entendez à propos d'autres terres, il n'y a pas de pays de cocagne. C'est ce qu'a dit le président gambien, c'était lors d'un discours prononcé aujourd'hui à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de son pays. Le 18 février 1965, la Gambie devient le 37e État africain indépendant après 15 ans d'âpres négociations. Retour sur cette page d'histoire avec Willy Diallo.
Les négociations pour l'indépendance ont débuté dès les années 50. Les mouvements nationalistes se sont organisés en partis politiques et on voit naître l'emblématique Parti populaire progressif de Daouda Jawara. La Gambie, colonie britannique qui longe le fleuve Gambie, est enclavée à l'intérieur de la colonie française du Sénégal. Alors les colons et les indépendantistes envisagent la création d'un seul État indépendant, la Sénégambie. Économiquement, le projet est intéressant pour les deux pays, mais les différences culturelles et administratives entre une colonie française et britannique sont beaucoup trop marquées pour pouvoir parvenir à un accord. Résultat, le Sénégal obtient son indépendance en 1960 et la Gambie un début d'autonomie. Deux ans plus tard, des élections sont organisées et remportées par le parti de Daouda Jawara. Il poursuit les négociations avec le Royaume-Uni jusqu'à l'indépendance de la Gambie en février 65. Le président Jawara se sera maintenu pendant une vingtaine d'années. Depuis, la Gambie n'a connu que deux autres présidents, Yahya Jammeh et Adama Barrow.
Et sous le président Yahya Jammeh, justement, la Gambie connaîtra un régime autoritaire pendant 22 ans, marqué par des violations des droits de l'homme, une répression féroce de l'opposition. En 2016, à la surprise générale, le dictateur perd les élections face à Adama Barrow, marquant ainsi le retour de la Gambie sur le chemin de la démocratie. Fatou Jagne Senghor, défenseur des droits humains en Gambie, est l'invité d'Afrique Soir. Elle répond à Willy Diallo.
Je pense que si on peut faire vraiment le bilan du président Adama Barrow, on peut dire qu'il y a une emphase de tout son programme sur la partie droits humains, les détentions arbitraires, la plupart des cas de torture, de détention, de maltraitance, bon, n'existe quasiment plus. Et au niveau des engagements internationaux, la Gambie a ratifié un certain nombre de conventions que le régime passé avait refusées.
La commission Vérité, Réconciliation et Réparation a rendu son rapport sur les atrocités commises sous le régime de l'ancien président, Yahya Jammeh. Qu'est-ce que ça a changé dans le pays?
C'est des chantiers énormes. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut les réparations pour les victimes. Nous espérons que les réparations vont être bientôt quantifiées. Maintenant, au niveau des sanctions, le gouvernement a accepté plus ou moins les recommandations. Ils ont commencé à relever un certain nombre de fonctionnaires de leur service. Par contre, il y a deux ou trois recommandations que le gouvernement n'avait pas acceptées, que les citoyens avaient jugées arbitraires.
La CEDEAO a annoncé en décembre son intention de créer un tribunal spécial pour la Gambie. Est-ce qu'il s'agit là d'une décision historique?
Oui, personne n'y croyait à un moment donné. Les Gambiens étaient un peu découragés. Il y aura un tribunal ad hoc qui va être mis en place avec l'assistance de la CEDEAO pour vraiment juger ces personnes qui ont été identifiées ou qui vont être identifiées, y compris l'ancien président Jammeh. Et donc, je pense que la partie la plus délicate, la partie la plus politique et sensible va s'ouvrir bientôt.
Yahya Jammeh a annoncé son retour dans le pays pour les prochaines élections. Est-ce qu'il pourrait se représenter en 2026 s'il le souhaite?
Je ne pense pas. Je pense que son retour serait sûrement pour répondre de ses actes devant ce dit tribunal dont on a parlé. J'imagine mal les autorités gambiennes, même la société gambienne, accepter Yahya Jammeh. Il a perdu de son soutien. Et puis, je ne pense pas que la communauté internationale pourra accepter un tel acte. Lorsque cette décision de mettre en place ce tribunal a été connue, il fallait bien qu'il réagisse d'une certaine manière.
Fatou Jagne Senghor, défenseur des droits humains en Gambie, avec Willy Diallo. Le football, c'est une rencontre qui fait beaucoup de bruit. Après coup, un match dans la catégorie des moins de 17 ans dans le cadre du tournoi Unifac entre le Cameroun et la Centrafrique à Douala. Bonsoir, Saliou Diouf.
Bonsoir, Sylvie.
Les Lyonceaux se sont imposés sur le score sans appel de 9-0. Une lourde défaite mal digérée par le sélectionneur centrafricain qui accuse les joueurs camerounais d'avoir triché sur leurs âges, entraînant le début d'une polémique.
Oui, la compétition, c'est pour les U17. Ce sont les mots remplis de suspicion prononcée par Dertin Boulengue, le sélectionneur centrafricain, des mots qui ne passent pas pour Alioune Seydou, car pour l'entraîneur camerounais, toutes les dispositions ont été prises pour éviter ce genre de doute.
Comme on a la chance d'organiser ces tournois chez nous, il y a des centres des IRM qui sont agréés et nous, ça nous a permis d'aller faire les tests IRM. Et l'organisation nous permet d'avoir le stade 5. Et nous, on s'est limité même au stade 4. Et comme les pays voisins, ils n'ont pas cette chance-là, ils sont obligés de venir qu'avec le joueur qu'ils ont seulement regardé et ils ont ramené. Après, l'organisation est là pour valider qui est éligible ou pas.
Une polémique qui est arrivée aux oreilles de ses troupes, des lionceaux totalement affectés selon l'ancien joueur de Nantes et de Sedan.
Moi, je le vois de près, c'est mes enfants. Je vois combien de fois il faut les remotiver par rapport à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux.
Mais pour le secrétaire général de la Fédération Centrafricaine, Octave Mahamat Adialo, la question était tout à fait légitime au coup d'envoi de cette rencontre.
Le constat que tout le monde a fait, et sur le terrain, c'est celui de l'écart visible de la morphologie des athlètes camerounais par rapport aux athlètes centrafricains.
Adialo n'en démord pas, les joueurs camerounais n'avaient pas des physiques d'adolescents, il assume même cette lourde défaite sportive.
Un enfant qui a moins de 16 ans, ça se voit, quelle que soit sa morphologie. Et au-delà des méthodes scientifiques que nous ne contestons pas, il y a les pratiques viciées dans nos pays qui contournent très souvent les mécanismes de vérification. Ceci dit, le résultat Cameroun contre la RCA est mauvais du côté centrafricain, nous l'acceptons.
De son côté, la fédération camerounaine condamne fermement ces allégations qu'elle qualifie de mensongères, diffamatoires et infamantes.
Merci Saliou Diouf, on vous retrouvera peut-être vous, l'un de vos collègues du service des sports dans la dernière édition d'Afrique Soir pour revenir sur les résultats de la soirée Ligue des Champions. Mais partons à présent dans le nord du Bénin pour le deuxième volet de notre série de reportages. Une zone confrontée à la menace d'attaque terroriste. Samedi, une position de l'armée béninoise a été attaquée dans le parc W. Le mois dernier, plus de 30 soldats ont été tués dans la zone dite du point triple. C'est à la frontière avec le Niger et le Burkina, dans une attaque revendiquée par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. L'insécurité provoque parfois des déplacements de population. Magali Lagrange a rencontré un groupe de déplacés qui s'est installé sur un terrain de la commune de Malanville, à la frontière avec le Niger. Voici son reportage.
Il est à quatre cases. Tu as vu ? C'est ici que le mari et la femme se couchent. Bon, c'est comme ça qu'ils se sont restés. Dans la saison des pluies, il faut qu'ils cherchent de l'herbage et ils couvrent les paillotes.
Deux petites cases munies de couchettes réparties sur un grand terrain au sol en terre. Quelques enfants pile du mille. Amidou Amina, relais communautaire à Malanville, aide plusieurs dizaines de déplacés installés là depuis 2 ans environ.
Bon, ils se sont déplacés par Malanville parce qu'ils ont dit que Malanville, c'est une grande ville. C'est pas dans la brousse comme on embête les gens. Ils sont en train de chercher l'aide. Il y a les maladies, la faim qui les entoure. En causant avec eux, ils avaient demandé de au moins faire un forage pour avoir de l'eau potable.
Une vingtaine de personnes sont assises sur 2 tapis, étendues à l'ombre d'un arbre. Parmi les femmes, Rukiatou, 48 ans, qui a quitté un village de la commune voisine de Karimama avec sa famille, ses 5 enfants.
Ici, on a l'esprit tranquille. Au moins, on peut arriver à dormir. Là-bas, on entendait le bruit des armes. Les enfants avaient peur tout le temps. Alors qu'ici, maintenant, nous n'avons plus peur des armes. Mais c'est très difficile de ne pas pouvoir faire de l'élevage ni cultiver. Il faut tout acheter, la nourriture, même le bois pour cuisiner. Si tu n'as pas les moyens, c'est difficile de vivre dignement. Cette situation est très compliquée pour nous. Même si on a eu la vie sauve, on traverse des moments très difficiles.
Les déplacés évoquent la peur des terroristes et parfois leur crainte des arrestations auxquelles procèdent les militaires. Maison, champs, ils ont tout laissé derrière eux, comme l'explique cet homme âgé qui prêchait dans sa communauté.
C'est un peu difficile. Beaucoup de gens ici sont sans emploi. Mais certains essaient quand même d'avoir une activité de petit commerce. Il y a ceux qui remplissent des récipients d'eau, qui les vendent. Il y en a d'autres qui vont couper de l'herbe et du bois dans la forêt pour les vendre.
des activités de substitution en attendant de pouvoir rentrer quand la situation le permettra. Il y a un an, l'OIM recensait plus de 12 000 déplacés internes dans les départements de la Libourie et de l'Atakoura dans le nord du Bénin. Magali Lagrange, de retour de Malanville, RFI.
Et notre série de reportages consacrée au nord du Bénin se poursuit jusqu'à jeudi et c'est à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. Il est 19h49 ici à Paris. À suivre ce soir sur RFI Accent d'Europe, nous parlerons de cette nouvelle vague de désinformation d'un nouveau genre alors que Facebook a supprimé son service de fact-checking. Elon Musk lui s'oppose aux régulations européennes des réseaux sociaux, un sujet qui intéresse autant Washington que Moscou.
Je vais commencer avec ce chiffre. D'après des estimations basses du site debunk.org, c'est le budget que la Russie dépense chaque année dans la propagande étrangère en influence étrangère.
Et à écouter également ce soir sur RFI, couleur tropicale, la Guinéenne Queen Rima, lauréat du prix Découverte RFI. Elle sera l'invitée de Claudicière dans l'émission Couleur tropicale. Donc ce soir à 21h10. Le jury, présidé cette année par la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, que l'on ne présente plus, a porté son choix sur cette artiste qui s'illustre dans le registre du dancehall. Elle participait pour la troisième fois à la finale de ce prix Découverte Edmond Sadaka.
La troisième fois aura donc été la bonne pour cette jeune chanteuse et danseuse de 28 ans. La qualité de sa musique et sa persévérance aussi ont séduit définitivement le jury. Dans ses chansons, Queen Rima mélange les rythmes du dancehall à des influences folkloriques guinéennes. Elle est d'ailleurs l'une des pionnières du dancehall, ce style né il y a une cinquantaine d'années en Jamaïque avant d'être écouté et dansé à travers le monde entier. La nouvelle lauréate se destinée dans un premier temps à la danse. Elle a accompagné de nombreux artistes guinéens sur scène ou dans leurs clips avant de monter une troupe de danse puis de se consacrer ensuite, il y a 10 ans, à la musique. Et le style qu'elle a choisi n'est pas le plus simple à défendre, le dancehall étant traditionnellement dominé par les hommes. Queen Rima chante en langue guinéenne mais aussi en anglais ou en français. Elle défend la cause des femmes et dénonce les inégalités qu'elles subissent aussi bien dans la vie quotidienne que dans l'industrie musicale.
Félicitations donc à Queen Rima, lauréate de ce prix Découverte RFI, et bravo également à tous les participants qui n'ont pas démérité.
Afroclub, le hit des platines. DJ Facemaker.
L'ambianceur officiel d'Afrique Soir qui nous embarque dans sa chronique musique certifiée Afroclub, c'est bien évidemment Hervé Mandina, alias DJ Facemaker. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Sylvie, très surprise.
Oui, tout à fait, plaisir de vous retrouver à ce micro pour une nouvelle sélection totalement égalitaire. Aujourd'hui, je vois deux artistes féminines d'un côté, deux masculins de l'autre. On va commencer avec la rappeuse gabonaise Marless et son titre satirique Sidiki Diabétique.
Oui, Marless qui s'est invitée dans le clash entre les rappeurs du Gabon et ceux de la Côte d'Ivoire, une joute verbale initiée par l'Ivoirien Imra, sans véritablement le vouloir d'ailleurs. Marless est un talent brut qui s'est construit une réputation solide au sein du label Mapan Lifestyle. Outre sa plume aiguisée, Marless a également une technique qui peut rappeler celle de Diams. Et en attendant son prochain projet, album ou EP, on écoute Sidiki Diabétique, salué par les amateurs de rap au-delà du Gabon.
Moi quand il pète là, j'éclate tout le monde. Hiroshima. Dis t'as oublié les cafards que nous on écrit le script. En matière de rap, c'est plus la prison que tu cherches, c'est la fin du monde. Full-o-car. Ça c'est l'ombaki, c'est le champ vous, c'est les coups de poing de Baki. Avec vos textes comme les débats des maquis. Sale. Le manger vous fait du propre. Rappé au brouillon, mets ça au propre. Sans sus, c'est ça ton travail, ton coccyx. Ça fait qu'on a tous supporté Trump. Tu te vends d'être riche, mais ton pays pue la dette, pue la dette, pue la dette. Je prends l'éléphant, j'arrache son ivoire et j'encule avec moi. Vos réalisateurs connaissent leur employeur en France, il aura vous loué chez le bailleur en triche. Comment je risque à le moment d'envoi, puis c'est la piste qu'on va transformer en mythe. Canal irrégalement et dit, chaîne nous le rap les rois. Fait qu'il aura les noirs. Si c'est coupé, décalé, c'est bon, mais si c'est rappé, les gars vont nous appeler les PD. Ah, pays c'est gâté. Les gens là ne peuvent plus voler les petites. Vous n'articulez pas mieux que Sidiki Diabaté. T'as même quelle force, Sidiki Diabétique. Ah, pays, Mahmoud ou Terno Marango, tout nous est rentré. On va vous sodomiser, position Mbappé. Et à son corps, clinique diabétique.
Et on va rester dans le rap, Hervé, avec cette fois un Guinéen et un autre ambianceur, Lil Sako.
Oui, Lil Sako, sociétaire du groupe Instinct Killer, qui dévoile Bamola, une chanson qui invite l'auditeur à bouger, à sauter, à danser, mais surtout à partager son message, celui de la lutte contre la consommation excessive d'alcool. Lil Sako a eu la bonne idée d'attirer l'attention du public avec une chanson légère en apparence et dont le message est très sérieux. Je vous invite à regarder le clip de Bamola, tourné dans les rues de Conakry avec des scènes totalement décalées. C'est pour vous, Sylvie.
Bamola in the lady, I'll yaro you Nangaimo, Bamola in a Nangaimo, 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 Oza, 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 il est sous, Bamola, il est sous, il a bu, il veut pas reconnaître qu'il est sous. Il est sous, Bamola, il est sous. Il a bu, il veut pas reconnaître qu'il est sous.
Ouais, il est des Thierry,
Bamola.
Il est des Dory,
Bamola.
Il est des Sari,
Bamola.
Ah, il est bien sous. Allez, on se calme. On va se calmer, Hervé Mandine. On va passer l'ambiance beaucoup plus sereine avec la chanteuse sénégalaise Diella, qui a célébré la Saint-Valentin avec un titre inédit.
Oui, Diella, qui est l'une de mes chouchous en matière de musique au Sénégal et pour la Saint-Valentin, qui est devenue un rendez-vous incontournable des sorties musicales. Elle a dévoilé Wé Rouaï, un slow acoustique qui a été spécialement conçu pour exprimer les émotions et les sentiments romantiques. Diella ralentit la cadence et déploie toute sa douceur avec amour dans une chanson mélodieuse avant de sortir un nouveau projet dès le mois prochain.
Ginaaw mem ci sey bir gent yow la 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 yow la.
Et on arrive déjà à la fin de cet Afro Club, mon cher Hervé. DJ Facemaker, vous avez choisi la collaboration entre le chanteur Agachou de l'Angola et Yalevis de la RDC.
Rien que pour vous entendre dire Agachou, je devrais le mettre plus souvent. La chanson c'est One For Me et je pense que vous serez conquise dès Agachou, les premières babe. Notes. Et je parle sous le contrôle de Jonathan Brady, notre réalisateur. Agachou est accompagné de l'étoile congolaise Yalevis pour son premier single de l'année qui est une déclaration d'amour au groove métissé et aux racines afro-universelles. Il y a un jeu d'harmonie entre les voix des deux artistes R&B afro-pop, une connexion validée à coup sûr dans l'Afro Club. On l'écoute.
Body vibrate when you cock it up. Murder is the case when you back it up. Oh me, you telling man for my liquor. It's a long look at baby Buju. Promise that I'll always be by your side. Awe mama, presence na yo. El long look at mama letting you so yo so shy.
Aux heures qu'elle n'a commis sans moteur. Pardon maman comme un cata. Aux heures qu'elle n'a commis sans moteur.
C'est peli sa moteur.
Oh money money.
Oh betting à la moteur.
Oh money si on a boli.
Baby you got the vibe on me.
Oh money money.
Shut you at the one for me.
Oh baby where.
C'est peli sa moteur.
Oh money money.
Oh betting à la moteur.
Call it boli.
Baby you got the vibe on me.
Oh money money.
You are the one for me. Look
at me too, mama, me chulo. Mama, zo, tu no e zangin beba.
Et c'est avec Agachou et Yalevis que l'on referme les portes de cet Afro Club de ce mardi 18 février. Vous revenez, hein, jeudi, Hervé. Avec quoi au programme?
Il y aura Docteur Namadingo du Malawi, Dems du Nigeria, Zubare du Rwanda et la traditionnelle séquence rétro. Et d'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre application RFI Pure Radio.
Et également sur notre site internet rfi.fr. Bonne soirée à vous, Hervé. Merci.
Et à vous aussi, Sylvie.
Priorité santé.
Charlie Dupiot vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Prendre soin de ses reins.
Jeudi.
La dépression masculine, quelle particularité dans les symptômes et l'expression de la maladie?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 10.